C'est vraiment un scandale qui touche toute une industrie et qui révèle une absence de moralité au cœur même de la finance internationale, hein, et non plus en marge avec les produits exotiques tels que les subprimes, hein, qui ont fait beaucoup parler d'eux, mais qui finalement concernaient un segment de cette industrie financière mondiale. Là, on est vraiment au cœur de cette industrie, puisque le Libor sert de base de référence à des contrats qui atteignent en volume près de 350 000 milliards de dollars. C'est considérable. C'est vraiment l'indice de base de toute l'industrie financière mondiale, hein, depuis les années 80. Et ce scandale du Libor montre qu'on ne peut plus avoir confiance dans cette industrie. On s'aperçoit chaque jour qu'il y a des nouvelles affaires qui éclatent et qui mettent en lumière je dirais, les défaillances au niveau moral et éthique dans cette industrie.
Certaines banques, pour cacher leur fragilité, ont donc menti sur les taux pratiqués. Comment, en pleine crise financière, de telles pratiques sont-elles encore possibles ?
Ces pratiques sont possibles, d'une part, parce que c'est un secteur qui est très complexe, une technicité très importante, ce qui fait que peu de gens comprennent vraiment les différents mécanismes, les différents processus à l'œuvre. Et d'autre part, c'est un secteur qui a un poids considérable, hein, puisque on sait par exemple qu'aux États-Unis, de nombreux ministres viennent des grandes banques comme Goldman Sachs ou Citigroup. Et en plus, ces grandes institutions financent directement ou indirectement les campagnes électorales, ce qui fait qu'elles ont une emprise considérable sur les gouvernements partout dans le monde.
Finalement, ce scandale prouve qu'au-delà des déclarations, aucune réforme sérieuse n'a été engagée depuis le début de la crise financière.
Alors, il y a eu des réformes quand même, hein, qui ont été engagées, notamment avec les travaux de la commission Dodd-Frank aux États-Unis, le rapport Vickers en Grande-Bretagne, et qui ont considérablement accru les exigences réglementaires auxquelles les banques doivent faire face, notamment en termes de fonds propres, d'utilisation de leurs ressources, de liquidité, etc. Mais on s'aperçoit que finalement, toutes ces grandes réformes ont surtout porté sur les aspects les plus techniques. Mais quand il s'est agi de vraiment remettre en cause le pouvoir considérable exercé par les banques dans l'économie mondiale, là, les tentatives de réforme ont été beaucoup plus timides, toujours parce que ces banques jouent un rôle considérable, un lobbying très actif au niveau des gouvernements, en leur disant « vous ne pouvez rien faire sans nous, vous êtes obligés de trouver des solutions de compromis ».
Quel poids le monde politique peut-il avoir aujourd'hui sur ce monde de la finance qui, même s'il est corrompu et toxique, continue d'imposer ses lois ?
La seule régulation efficace devra avoir lieu au niveau mondial, par un grand accord mondial qui pourrait jeter les bases d'un nouveau système financier et monétaire international, un petit peu comme ce qui avait été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, avec les accords de Bretton Woods. Donc l'idée, c'est de retrouver un horizon commun pour l'ensemble des pays de la planète, hein, et de remettre le sens de l'intérêt commun de l'humain au cœur du système économique, hein. Mais pour l'instant, c'est encore un vœu pieux, hein, si j'ose dire.